nous sommes en compagnie de Francis Roca, responsable des programmes d'exploration du système solaire au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Seconde mission à destination de Mars, hein, c'est à partir du 25 novembre, puisque la fenêtre de tir s'ouvre à ce moment-là, avec une fusée Atlas V qui devrait s'envoler dans le ciel de Floride. Là, on a à bord donc Mars Science Laboratory, qu'on connaît aussi maintenant sous le nom de Curiosity, hein, qui est le nouveau fleuron de la NASA, qui est une sonde unique qui devrait 8 mois plus tard arriver sur Mars, ça sera en août 2012, et déposer un robot, enfin en tout cas on devrait voir un robot de la taille d'une Twingo, bardé de caméras, d'instruments, se poser sur Mars. Là aussi, Francis Rocard, c'est gonflé.
Alors ça, c'est une mission tout à fait extraordinaire. Par son ambition, par sa taille et par son coût. Bon, c'est une mission qui aujourd'hui coûte de 2,5 milliards de dollars. Et la technique d'atterrissage, déjà, est très très innovante. Peut-être que les petits films seront sur le site de Ciel et Espace, mais vous atterrissez avec un système de rétrofusée qui se situe sur la partie supérieure, et pour des raisons de pollution de la surface, vous allez descendre ce rover qui fait quand même 900 kg, presque une tonne, au bout de 3 câbles, et hop, il est posé et il est parfaitement autonome. Et l'engin est extrêmement complexe, il a une dizaine d'instruments à bord. Il est alimenté par ce qu'on appelle un RTG, c'est-à-dire finalement d'énergie nucléaire. Donc il aura beaucoup plus d'énergie que Spirit et Opportunity, les rovers de deuxième génération, qui néanmoins, pour Opportunity, continuent à fonctionner 7 ans plus tard, ce qui est quand même assez miraculeux. Mais on sait que sur le plan de l'énergie, on est limité avec Opportunity. Mmh. Vous savez que pendant les 12 heures, on a du soleil, c'est-à-dire que les panneaux se chargent. Finalement, sur ces 12 heures, vous en avez 10 de charge et 2 heures de déplacement. C'est ça le rythme de Spirit et Opportunity. Donc ça limite beaucoup, non pas la vitesse, mais la distance parcourue par jour. Le record absolu est 200 mètres. Ce qui est énorme, puisque ce rover maintenant en est à une trentaine de kilomètres, donc tous les records sont battus, c'est tout à fait extraordinaire. Alors moi j'aime pas beaucoup l'appeler Curiosity, mais avec MSL, avec ce rover, on va commencer réellement une exploration régionale. Bon, là ça va devenir très spectaculaire, d'une part parce que vis-à-vis des gens qui apprécient ces images de Mars, et j'en suis le premier, mais il y a beaucoup de gens qui les aiment beaucoup, on va voir des films, donc on va avoir des images animées et non pas des points gifs comme on les trouve parfois. Ça sera plus sophistiqué que ça, on aura une vision extrêmement spectaculaire. D'ailleurs, le site d'atterrissage de MSL a été choisi sur des considérations techniques, quantité de poussière, vent, scientifique, présence d'argile, qui est quand même les matériaux les plus intéressants et découverts par un Français, Cocorico, on est très fiers, mais aussi pour des considérations d'un aspect spectaculaire.
On va changer de paysage là, pour le coup.
On est habitué à des montagnes qui font 5000 mètres. Donc on va monter sur une montagne et ça sera extrêmement spectaculaire. Donc on n'aura pas un site de type Opportunity qui ressemble à un site lunaire extrêmement ennuyeux, sauf quand on arrive dans les cratères, bien sûr. Mais le reste du temps, c'est quand même plutôt ennuyeux. Donc là, on va avoir une partie un peu chaotique. On va grimper sur des. Je pense que ça va être extrêmement à la fois spectaculaire et très, très très riche sur le plan scientifique, parce que la capacité d'analyse de MSL n'a rien à voir avec Spirit et Opportunity. On a des instruments très très sophistiqués sur cet engin, ceux qui sont au bout du bras, qui eux font des analyses assez modestes. Bon, il y a un instrument, on l'aime bien parce qu'il est franco-américain, c'est ChemCam. Il va être spectaculaire dans le sens où c'est un instrument tactique. À partir du moment où le rover aura franchi une certaine distance, que l'équipe aura décidé que le site est intéressant pour des analyses, à ce moment-là, ChemCam rentre en batterie. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est un laser qui tire sur des cailloux jusqu'à une distance d'environ 7 mètres. Et chaque tir provoque un spectre UV, donc un flash. Et ce flash se traduit par un spectre UV, qui sont des raies d'émission de la roche. Donc finalement, on analyse la roche à distance. C'est extrêmement puissant. Ces analyses seront faites au sol, au JPL, pendant la nuit. Et en comparant ces différentes roches, on va dire, oh là là, on en a 7 qui sont parfaitement identiques. Mais alors la 8e, elle est étonnante. Elle est nouvelle. On ne l'avait jamais vue. C'est celle-là qu'il faut analyser. Donc à ce moment-là, le rover va se déplacer. Mais ça va prendre tout de suite plusieurs jours pour aller sur la roche intéressante que KemCam a identifiée, et ensuite on va prélever quelques grammes d'échantillons, peut-être dizaines de grammes, pour les rentrer dans un véritable laboratoire d'analyse. C'est une usine à gaz qui doit faire une quarantaine de kilos, grand comme une boîte à chapeau. C'est pas la boîte à chaussures, hein, c'est nettement plus gros. C'est un spectromètre de masse avec colonne de chromatographie en phase gazeuse, là aussi fournie par les Français, mais aussi un système d'analyse par ablation laser, enfin des systèmes tout à fait innovants. Il y aura une anecdote à préciser d'ailleurs sur le problème des fours qui chauffent les échantillons. J'ai peut-être tout de suite en parler, oui. Puisque j'ai un peu allumé la mèche. Vous savez que sur Viking, on avait ce type d'instrument. On mettait les échantillons dans un four, et ces fours, ce qu'on appelle des fours à pyrolyse, tout ce qui était volatilisable passait en phase gazeuse, et derrière vous analysiez en un spectromètre de masse. On cherche quoi ? On cherche du carbone, mais on cherche pas du carbone oxydé comme le CO2. On cherche un carbone qui est au moins un petit hydrogène ou un azote ou un autre carbone accroché. On n'a rien trouvé. On a trouvé que du CO2. Ça, c'est Viking en 76. Et on s'est aperçu depuis que en 2008, on a trouvé du perchlorate. Et déjà, on fait des simulations de ce que pouvait créer ce perchlorate. Ben ce perchlorate, à haute température, il a tendance à vous oxyder le carbone. Donc, il n'est pas impossible que le fait d'avoir chauffé le four, même si on avait des tas de molécules organiques très intéressantes, le fait de chauffer les oxydait. Donc, la seule chose qui sortait, c'était du CO2. Et on va avoir un système non chauffant qui va nous permettre d'extraire des molécules volatiles. Et donc, on espère enfin trouver une molécule non oxydée, enfin carbonique et non oxydée. Et ça, c'est quand même ce qui nous manque beaucoup. On parle de vie sur Mars, on aimerait bien trouver ces types de molécules. C'est l'étape, c'est vraiment une des grandes priorités de MSL.
Justement, la philosophie de la mission, c'est pas de trouver la vie sur Mars, c'est de savoir si les conditions d'habitabilité de Mars, comme on dit à une époque, le site a été choisi parce que je dirais plus de 3,6 milliards d'années devraient pouvoir être observées, en tout cas dans le temps, les conditions d'habitabilité de la planète étaient-ils à ce moment-là favorables pour l'émergence de la vie. On est vraiment dans cette recherche-là d'habitabilité.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne recherche pas la vie vivante, pour être clair. Le MSL n'est pas capable de le faire. Ce que faisait Viking. Viking a cherché la vie vivante et ne l'a pas trouvée. Mais par contre, on va se poser donc sur ce cratère. Je l'ai dit rapidement, mais il y a des argiles. Les argiles, aujourd'hui, c'est la preuve que Mars a été chaud et humide, donc on est effectivement autour de moins 3,8 milliards d'années, c'est-à-dire 500, 600 millions, 700 millions après la formation de Mars, et c'est cette période où Mars était chaud et humide. Et ça veut dire que l'eau liquide coulait à flot partout. On sait qu'il y a eu énormément d'eau sur Mars. Les traces d'érosion sont considérables. Cette eau a probablement beaucoup disparu, soit dans le milieu interplanétaire, soit dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, on ne sait pas la quantifier, parce qu'on ne connaît pas l'épaisseur de la glace qui est dans le sous-sol. Mais donc, il faut aller là où il y a cette argile. Ça veut dire qu'on a accès à une surface qui est très ancienne. Et dans ces argiles, vous savez que dans des carbonates sur Terre, on trouve des tas de petits coquillages. Donc on trouve de la vie morte, mais de la vie ancienne, des coquillages, pas forcément fossilisés au sens silicaté du terme, mais des petits coquillages qui sont des carbonates. Eh bien, pourquoi pas ? On pourrait peut-être trouver des choses. Alors, on recherche des choses modestes, on recherche plutôt des bactéries, parce que c'est l'élément vivant le plus modeste. Alors là, on ne va pas chercher ces bactéries vivantes, pour être clair, mais on va peut-être chercher des bactéries qui seraient mortes et qui auraient laissé leur carbone sous une forme évoluée dans ces roches silicatées. Dans ces argiles.
Ça veut dire que le choix du site est absolument prépondérant. Je me souviens, il y avait un processus de décision qui avait conduit à quatre objectifs possibles. C'est le cratère Gale qui a été choisi. Vous l'avez décrit, c'est quand même une dépression de 150 km de diamètre. être creusé il y a plus de 3,6 milliards d'années, donc on le disait, qui fait face à une montagne de 5000 mètres de haut. Hein, c'est exactement tout en strates que les chercheurs américains, d'ailleurs, décrivent souvent comme le Grand Canyon. Je sais qu'on aime beaucoup aux États-Unis montrer le Grand Canyon comme exemple, mais ça donne à peu près cette idée-là. Il y a eu un choix, entre guillemets, politique pour aller sur Gale. Il y avait peut-être d'autres endroits où aller, parce qu'il fallait se poser sans trop de difficultés, il fallait que le terrain soit propice.
Je ne sais pas si c'était
propice.
Un choix politique. Ça a été une grande démocratie scientifique, hein, cette affaire. Il ne faut quand même pas l'oublier. Elle a duré 3 ans. Tout le monde pouvait proposer un site. N'importe qui, un Français, un Chinois, pouvait proposer un site. Il fallait évidemment argumenter. Il fallait expliquer pourquoi ce site était intéressant. Et il y a eu, je crois, 60 sites de proposés qui ont été regardés de près. Et ensuite, les ingénieurs du JPL ont dit, attendez, ce site, il ne convient pas, il est à trop haute altitude, on n'est pas capable d'atterrir au sommet des montagnes. Celui-là, il est au fond de Valles Marineris. Malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas aller au fond des vallées encaissées, les Grands Canyons. Ce sont des zones qui sont interdites. Donc, il y a eu un premier écrémage. Il y avait des considérations de vent, de poussière, pas trop de poussière, mais pas non plus trop de blocs rocheux pour la sécurité de l'atterrissage. Donc toutes ces considérations ont été mises sur la table. De 60, il y a eu une diminution environ 10. Là-dessus, la très très belle caméra de MRO qui s'appelle IRIS, qui donne des images à très très haute résolution, a cartographié une dizaine de sites. Donc on a pu les voir vraiment en détail, et de 10 on est passé à 4, et là-dessus on est resté à 4 pendant très longtemps, peut-être un an ou deux, et beaucoup de gens ont travaillé sur ces 4 sites. Il y avait Mars Valley, Gale, Eberswald et Holden, et finalement c'est vrai que là des clans se sont créés. Il y a ceux qui voulaient plutôt aller sur Mars Valley, c'est vrai que les Français voulaient aller sur Mars Valley, d'autres qui voulaient aller sur Gale.
Pourquoi?
Alors je crois que l'argument de Mars Valley, si j'ai bien compris, c'est que Mars Valley est plus riche en argile, en différentes variétés d'argile. L'argument de Gale qui a été retenu, c'est que il n'y a peut-être pas toutes les variétés d'argile, mais néanmoins il y a les argiles. Il y a aussi les sulfates, parce qu'on n'a pas parlé des sulfates, mais c'est également intéressant. C'est une époque un peu intermédiaire entre les argiles, période chaude et humide, et le désert aride d'aujourd'hui. Il y a une période intermédiaire avec des périodes très acides, d'eau rare, mais très acides, qui ont formé ces sulfates. Et donc on a les deux sur Gale, on va pouvoir étudier les sulfates puis les argiles. Et d'ailleurs on a une succession qui est logique, les argiles d'abord au pied de la montagne, les sulfates plus haut, donc plus anciens en bas, plus récent au-dessus, tout ça est logique. Finalement, l'histoire de Gale, et on la comprend mieux, ça a été un argument important pour choisir Gale, c'est que on arrive à le contexte est mieux compris. Mars Valley, ce qui a gêné les Américains sur Mars Valley, c'est oui, il est intéressant du point de vue des argiles, mais malheureusement, il y a eu tellement d'eau que finalement son histoire est complètement embrouillée. C'est gênant pour après que la mission ait eu lieu, pouvoir retracer toute l'histoire, parce qu'aujourd'hui on est un peu perdu sur Mars Valley, et ça a gêné les Américains pour dire c'est quand même gênant de dire ben, on ne pourra jamais vraiment bien comprendre où on s'est posé, quelle a été la succession d'événements sur 4 milliards d'années, qu'est-ce qui s'est passé. C'est embêtant, sur Gale on comprend mieux.
Alors, j'imagine que Spirit et Opportunity ont servi énormément, je ne sais pas comment on les appelle, les navigateurs, ou en tout cas ceux qui, depuis la Terre, programment en tout cas le déplacement du vaisseau, aujourd'hui, enfin du rover, aujourd'hui avec MSL, on a, en tout cas, ces pilotes dispose d'une part automatique et je dirais d'une part auto-guidée ou à partir du sol, tout court. Est-ce que là aussi l'expérience, je dirais, des deux rovers précédents a été déterminante pour orienter l'exploration de ce rover?
Il est clair que l'expérience de Sojourner sur Pathfinder en 96,
le petit Sojourner,
le petit, ouais. Il faisait 11 kilos, suivi de Spirit Opportunity, font qu'aujourd'hui, il y a un laboratoire au monde qui a une expérience de ces engins autonomes que sont les rovers, c'est le Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. Personne n'a cette expérience. Et elle est unique, parce que opérer un rover comme ça, souvenez-vous ce qui s'est passé sur Spirit. On a rempli la mémoire RAM à ras-bord, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le calculateur n'arrêtait pas de rebooter. C'est quelque chose qu'on connaît sur Windows. Vous avez un calculateur qui reboot en permanence parce qu'il a un problème. Eh bien, on a frôlé la catastrophe, on a failli perdre Spirit. Bon, les opérateurs ont réussi à dire à Spirit, arrête-toi, calme-toi, ne reboot pas, on va vider ta mémoire RAM et ensuite tu vas rebooter calmement. Mais encore fallait-il qu'il y ait dans la procédure soft et hard, c'est-à-dire ce qui est prévu et téléopérable sur Spirit, prévoir un mode qui permet de lui parler alors que le calculateur est complètement planté, comme on dit quand on a un ordinateur. Quand l'ordinateur est planté, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, il y a un petit bout d'ordinateur, il y a un microprocesseur qui, lui, continue à dialoguer avec la Terre en disant un minimum d'ordres sont... Et tout ça, c'est un savoir-faire extrêmement riche. On envisage de le faire, nous, en Europe, avec ExoMars, puisque nous avons une mission martienne qui est en gestation, qui sera pour, on espère, 2018, mais il s'agira de piloter un rover sur Mars également. Donc là, on va apprendre. Mais aujourd'hui, le savoir-faire, il est chez eux. Et sur l'expérience KemCam, on a la chance d'opérer KemCam en partenariat avec les Américains, c'est-à-dire qu'on va se partager le travail. C'est-à-dire que quand KemCam sera... On travaille essentiellement le jour sur Mars plutôt que la nuit, même si MSL pourra travailler un peu la nuit, mais l'essentiel se fait de jour. Et quand ça sera de jour à Pasadena, ce sont les Américains qui opéreront KemCam, mais quand ça sera de jour à Toulouse, puisque ça sera à Toulouse que ça se fera, ça sera les Toulousains du CNES qui vont opérer KemCam. Et c'est intelligent, ça permet de faire en sorte de ne pas avoir à travailler la nuit, donc, parce qu'il y a un décalage 24 heures, 40 minutes, on se décale de 40 minutes tous les jours. Donc il y a un moment, ça sera pendant 3 semaines, ça sera aux Français d'opérer KemCam. Donc on va acquérir un savoir-faire sur ce type d'opération qui est tout à fait unique, très particulier, qui demande énormément de rigueur. C'est beaucoup de monde, c'est plusieurs centaines de personnes. C'est pas...
Oui, parce que Spirit Opportunity, ça veut dire que ça fait depuis 7 ans, il y a des équipes qui se décalent tous les jours de 40 minutes. Depuis 7 ans.
Il y a une seule opération dont le sol est jaune et l'autre dont le sol est bleu. Parce que quand les gens arrivent la nuit, c'est un code de couleur. Ah zut, c'est la salle jaune, je ne suis pas dans la bonne salle. Moi, c'est Opportunity, il faut que j'aille dans la salle bleue. Donc voilà, c'est pour faire en sorte que des gens qui arriveraient à 3h du matin, pas très bien réveillés, ne se trompent pas. Donc la salle jaune, c'était Spirit, la salle bleue, c'était Opportunity.
Alors, les Américains, vous l'avez dit, ont pendant un certain temps fait des sons doubles Viking, Viking 1, Viking 2, Spirit Opportunity. Là, on a un seul rover, il a coûté excessivement cher. Là aussi, il y a des étapes critiques, il y a du suspense quand même, c'est un risque.
C'est toute mission scientifique est un risque, mais toute mission qui se pose sur Mars est à très haut risque. D'ailleurs, il n'y a que les Américains qui se sont posés sur Mars aujourd'hui. Vous l'avez dit, les Russes et les Soviétiques ont tout raté en termes d'atterrissage. Ils ont réussi quelques orbiteurs pas très longtemps, mais en termes d'atterrissage, à part 20 secondes pour un Mars 3 qui ensuite s'est arrêté, ça a été un fiasco. Ils ont une belle réussite sur Vénus, hein. Il faut quand même rendre aux Soviétiques leur réussite sur les Vénéra ont quand même... Ils se sont posés sur Vénus. C'est extrêmement difficile de se poser sur Mars parce que l'atmosphère est extrêmement ténue. Et donc, on va vivre début août de l'année prochaine un moment très tendu qui va être les fameuses 6 minutes de terreur. C'est comme ça que les Américains les appellent. C'est au moment où vous touchez chez l'atmosphère de Mars, c'est le moment où vous vous posez sur le sol. On sait que ça va durer 6 minutes. 7 minutes d'ailleurs, je crois que c'est plutôt. Et là, c'est tout ou rien, quoi. Soit vous êtes posé et la mission... Derrière, c'est facile de ne pas faire trop de bêtises et de pas réellement mettre en danger une mission quand vous êtes sur Mars. Se poser, c'est gagner ou c'est un échec. Donc ça sera du tout ou rien. Et vu l'ampleur de la mission, le système d'atterrissage, le fameux Sky Crane, le système à rétrofusée et l'ascenseur, tout ça étant tout très nouveau, c'est celui qu'on veut utiliser pour la mission suivante. Évidemment, si c'est un échec, on sait comment ça se passe. Pendant 2 ans, tout est remis à plat, tous les programmes sont arrêtés et tout prend 2 ans de retard. Donc la perspective ultérieure, notamment dans le cadre d'ExoMars, qui est une perspective européano-américaine, va être totalement plombée si c'est un échec. Donc on attend beaucoup du succès de MSL.
Alors justement, au point où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire en octobre 2011, bilan on peut faire de là où on est ExoMars. Vous parliez de cette mission. Aujourd'hui, où en est-elle? Qu'est-ce qu'on attend? Quelles sont les échéances? Où sont les difficultés?
Alors, le problème de parler d'ExoMars aujourd'hui, c'est que ce que je vais vous dire sera obsolète d'ici quelques semaines. Ça évolue tellement vite que très très vite, la situation est, et il y a des éléments nouveaux. Le dernier élément que nous avons aujourd'hui, c'est que malheureusement, suite aux difficultés budgétaires américaines que nous connaissons, que ce soit au niveau de la dette américaine et que ce soit au niveau du budget de la NASA avec les surcoûts du JWST, eh bien, là où les Américains avaient promis deux lanceurs pour ExoMars, pour l'orbiteur de 2016 et le fameux rover conjoint de 2018, eh bien, le budget à court terme étant plus rare que prévu, le lanceur de 2016 n'est plus possible pour les Américains. Donc on n'a plus de lanceurs pour 2016. Et d'où le fait que l'Agence spatiale européenne se tourne vers la Russie pour, en espérant une coopération et avoir un lanceur le plus puissant possible, c'est-à-dire le Proton. Il ne nous faut pas un petit lanceur Soyuz, il nous faut un gros lanceur Proton. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que on ne sait pas ce que les Russes vont répondre. Et si on va pouvoir continuer avec un lanceur Proton, mais si on n'a pas de lanceur Proton, la mission est quand même en grave difficulté.
Mars reste un objectif prioritaire, je dirais, pour les scientifiques, pour l'exploration du système solaire, c'est pour la France en particulier, c'est un objectif, c'est une destination
obligatoire. Bien sûr, c'est probablement la priorité des planétologues français parce qu'il y a cette richesse sur Mars. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller ailleurs. Évidemment, on aime bien aussi aller visiter Pluton sur New Horizon, ou aller faire du retour d'échantillons d'astéroïdes, etc. Mais sur Mars, on a toute cette richesse d'une planète qui a une histoire complexe, avec de l'eau, moins d'eau aujourd'hui, une atmosphère, moins d'atmosphère aujourd'hui, la problématique de la vie, une activité volcanique ancienne, etc. Donc tout est très riche sur Mars. Et donc toute la communauté des planétologues, les géophysiciens, les spécialistes de l'atmosphère, les géochimistes sont intéressés par Mars. Sur la Lune, vous avez des pans entiers de thématiques qui n'existent pas. Vous n'allez pas intéresser un exobiologiste avec la Lune parce qu'il sait qu'il n'y a aucune chance qu'il trouve... chaussures à son pied.
Merci Francis Rocard de nous avoir donné les éléments pour juger d'une part de la roulette russe et puis d'autre part de ce nouveau rover que l'on verra partir en principe dans quelques jours, quelques semaines. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un futur podcast. Thank you.